Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Bernard de Cotigny.
L'émotion était au rendez-vous ce samedi au Vatican. Le pape François avait tenu à rencontrer de manière particulière le monde des sourds-muets et des aveugles. Nouvelle preuve que le pape tient à donner toute sa place aux personnes trop souvent marginalisées ou exclues. Vendredi soir, le pape aura aussi surpris lors d'une célébration pénitentielle qu'il présidait en la basilique Saint-Pierre. Il est allé se confesser avant de confesser lui-même. Nous entendrons un évêque burundais nous dire l'importance du pardon pour le continent africain. Nous entendrons ensuite le témoignage de Mgr Sidrak, le patriarche de l'église catholique copte en Égypte. Il participait à la nuit des témoins organisée par l'AED, l'aide à l'église en détresse. Nous retrouverons ensuite le livre pour Dieu de Sœur Catherine Aubin, les nouvelles biotechnologies en question. C'est le titre du livre de cette semaine, son auteur le père Thierry Magnien. Enfin, le commentaire de l'évangile de ce dimanche, proposé par le père Pascal Montavi, Jésus rencontre un aveugle. C'est une rencontre inédite et très émouvante donc qui s'est tenue ce samedi au Vatican entre le pape François et quelques 6000 sourds-muets ou aveugles. Cette audience, à l'initiative de la Petite Mission pour les sourds-muets et du mouvement apostolique des aveugles, a été organisée en quelques semaines à la suite d'une lettre envoyée au pape par un prêtre brésilien, le père Deutschi, qui voulait le sensibiliser au manque d'interprètes et de prêtres formés au langage des signes. Les participants venaient de toute l'Italie, mais aussi d'Angleterre, des États-Unis ou encore d'Argentine. Cyprien Viette a assisté à cette audience chargée en émotions.
Debout resplendis car voici ta lumière. C'est dans l'espérance et la joie que les participants à cette audience se sont réunis. Parmi eux, des couples, des enfants avec leurs parents, des religieuses, des prêtres venus avec le cœur rempli d'histoires souvent douloureuses. Le père Deutschi, de nationalité brésilienne, est l'accompagnateur de la petite mission pour les sourds-muets. Dans son discours d'accueil au pape, il n'a pas caché les difficultés des sourds pour s'intégrer dans l'église. Dans nos paroisses, dans nos diocèses, partout dans le monde, combien y a-t-il de personnes sourdes qui trouvent porte close et ne réussissent pas à avoir cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ ? En réponse, le pape a proposé un chemin de cohérence avec l'évangile. Il dénonce comme un blasphème cette croyance archaïque qui assimile le handicap à une punition divine et appelle au contraire les chrétiens à prendre l'exemple du Christ. Nous pensons à tant de gens que Jésus a voulu rencontrer, surtout les personnes frappées par la maladie ou le handicap, pour les guérir et les ramener à la pleine dignité. Il est très important que ces personnes deviennent témoins d'un nouveau comportement que nous pouvons appeler culture de la rencontre. Une culture de la rencontre qui passe par la participation de tous à la mission de l'Église. C'est aussi cela la nouvelle évangélisation, transformer les vulnérabilités de chacun en charisme, en don, pour éloigner le risque de la tristesse et entreprendre un grand chemin de fraternité.
Et lors d'une célébration pénitentielle qu'il présidait dans la basilique Saint-Pierre vendredi soir, le pape François a donné l'exemple en allant se confesser lui-même en premier avant de confesser à son tour plusieurs fidèles, en ouvrant ainsi l'initiative 24 heures pour le Seigneur à Rome et dans le monde. Le pontife a invité à se détourner du péché et à se revêtir de l'homme nouveau, abandonnant mensonges, colère ou encore médisance. Antonino Gallofaro.
Avant de confesser, plusieurs fidèles installés dans un confessionnal de la Basilique Vaticane, le pape François s'est tout d'abord dirigé vers un autre confessionnal pour recevoir le sacrement de réconciliation du prêtre qui s'y trouvait. Si le pontife, comme ses prédécesseurs, a rappelé à plusieurs reprises qu'il se confessait fréquemment, cette démarche en public était sans doute inédite. Au son de chants entonnés par le chœur ou de musique, le pape et d'autres prêtres installés dans la basilique ont ensuite confessé plusieurs personnes. Avant ces confessions, le pape a proposé une réflexion en deux temps. Il a tout d'abord insisté sur l'importance de se revêtir de l'homme nouveau, en regardant la réalité avec des yeux différents, sans être plus distrait par ce qui ne compte pas ou ce qui ne peut durer longtemps. C'est pour cela que nous sommes appelés à abandonner les comportements du péché et à fixer notre regard sur l'essentiel, a-t-il insisté. résister. Parler toujours en vérité et éviter tout mensonge, ne pas voler mais plutôt partager ce que l'on possède avec les autres, particulièrement ceux qui sont dans le besoin, ne pas céder à la colère, à la rancœur ou à la vengeance, tels sont les fruits de ce renouveau, selon le pontife. Le pape a ensuite souligné la nécessité de demeurer dans l'amour de Dieu afin de trouver la force de chercher le pardon et de se relever. Le Père, a-t-il rappelé, ne se laisse jamais d'aimer. Le Seigneur nous attend toujours. Il ne nous laisse pas seulement la porte ouverte. Il nous attend, nous pardonne et au lieu de nous réprimander, il fait la fête.
Le pape François a donc inauguré ainsi une initiative inédite, baptisée 24 heures pour le Seigneur, sur une proposition du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Cette journée était consacrée au sacrement de la réconciliation dans le diocèse de Rome et tous les diocèses du monde qui ont choisi d'y adhérer. Nous avons rencontré place Saint-Pierre un évêque du Burundi, Mgr Joachim Ntaondereye, du diocèse de Muyinga. Il nous dit l'importance de cet appel du pape au pardon pour l'Afrique.
C'est un appel qui est plein de signification, surtout pour nos pays d'Afrique qui ont connu des divisions et des violences qui ont semé un grand ressentiment dans les cœurs, qui ont profondément blessé les cœurs et les consciences. Et donc une journée du pardon est comme une occasion providentielle de réveiller dans les cœurs cette exigence du pardon qui est la seule à pouvoir permettre l'édification d'une paix durable.
Et parlons de la grave crise que connaît le Venezuela. Après 7 semaines de protestations antigouvernementales, parfois violentes, pouvoir et opposition sont tombés d'accord pour instaurer un dialogue en présence d'un témoin international, mais ses modalités restent à préciser. Interrogé par des journalistes sur un éventuel rôle du cardinal Parolin dans la résolution de cette crise, le père Federico Lombardi a répondu que le Saint-Siège et aussi personnellement le cardinal secrétaire d'État, Mgr Parolin, qui aime et connaît bien le Venezuela pour y avoir été nonce apostolique, est certainement disposé et désireux même de faire tout ce qui est possible pour le bien et la sérénité du pays. Il faut cependant approfondir la situation, ajoutait le père Lombardi, et avoir d'autres éléments pour mieux vérifier quelles sont leurs attentes et voir si toutes les conditions sont réunies pour assumer un rôle utile et atteindre ainsi l'objectif visé. C'est ce qui est en train d'être fait en ce moment. Fin de citation. Restons au Vatican où le pape François a confirmé ce samedi dans leur charge le préfet de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée, le cardinal João Brás de Avis, mais aussi le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, le cardinal Jean-Louis Torrent, et le président du Conseil pontifical pour la culture, le cardinal Gianfranco Ravasi. Un autre voyage du pape se profile, cette fois-ci en Calabre. Le pape François m'a fait savoir son intention de venir en visite à Cassano allo Ionio, a déclaré ce samedi matin Mgr Nunzio Galantino, évêque de ce diocèse et secrétaire général de la Conférence épiscopale italienne. Mgr Galantino a ajouté que les dates exactes de la visite du pape en Calabre seraient connues probablement la semaine prochaine. Cette visite du pape dans une région italienne fera suite au déplacement à Lampedusa, Cagliari et Assise. Je vous propose à présent le témoignage du patriarche de l'église catholique copte en Égypte, grand témoin de la Nuit des témoins organisée par l'AED, l'aide à l'église en détresse à Strasbourg, Marseille et Bordeaux et Paris. Cette 6e édition s'est achevée vendredi soir dans la capitale française avec une messe et une veillée à la cathédrale Notre-Dame, un événement organisé chaque année pour rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie par fidélité au Christ. En Égypte, depuis la chute du président Morsi en juillet 2013, plus de 60 églises ont été saccagées en représailles contre les coptes accusés de complot contre le régime. S'agit-il alors d'une persécution ouverte contre les chrétiens égyptiens? Sa béatitude, Mgr Ibrahim Isaac Sidrak, patriarche donc de l'église catholique copte, préfère parler de discrimination plutôt que de persécution.
Qu'est-ce que c'est persécution? On peut discuter beaucoup sur ça, mais on ne veut pas dire des choses théoriques. Mais pour vivre honnêtement, pour vivre d'après sa foi, pour vivre d'après son droit d'être citoyen en pleine parole, on souffre, on a des difficultés. Ces difficultés ne sont pas déclarées officiellement, mais ils dépendent beaucoup de la formation des personnes, des individus. Mais heureusement qu'il y a une grande partie des Égyptiens qui ont pris conscience de ce jeu politique qui instrumentalise la religion. Donc, soit chrétien, soit musulman, on est à la fin égyptien ensemble, que chacun vive sa foi. mais on a besoin aussi de la voix de l'opinion internationale qui respecte la volonté du peuple. Et puis, soutenir aussi les chrétiens, ou bien soutenir les responsables chrétiens en Égypte, à aider les gens à rester sur place. On ne veut pas l'émigration. On ne veut pas que les Égyptiens chrétiens quittent leur pays pour des raisons soit d'insécurité, soit économique, soit n'importe quoi. Donc si on arrive à aider les gens à rester sur place, ce sera la bonne mission qu'on peut faire.
C'était Mgr Ibrahim Isaac Sidrac, des propos recueillis par Audrey Radondi. Place à présent au Livre pour Dieu de Sœur Catherine Aubin, « Les nouvelles biotechnologies en question », c'est le titre du livre de cette semaine. Son auteur Thierry Magnien, prêtre et recteur de l'Université catholique de Lyon, propose une réflexion sur l'éthique des biotechnologies. Vers quel monde les technosciences et les nouvelles biotechnologies nous conduisent-elles? C'est une des grandes questions qu'aborde cet ouvrage au moment où l'homme a de plus en plus de capacités techniques pour maîtriser le vivant. Nous écoutons donc l'entretien de Catherine Aubin avec ce physicien et théologien.
Le Livre pour Dieu, cette semaine, s'intéresse aux nouvelles technologies. Il a pour titre « Les nouvelles biotechnologies en question ». Son auteur, Thierry Magnien, nous répond à cette question « Vers quel monde les technosciences et les nouvelles biotechnologies en particulier nous conduisent-elles ? »
Aujourd'hui, on est capable de fabriquer des génomes artificiels. Le génome, c'est l'ensemble des gènes qui conduisent le développement des cellules vivantes. Et on est capable aujourd'hui de fabriquer le génome artificiel d'une bactérie, qui est le plus simple des vivants. Et on commence à s'intéresser à d'autres vivants plus complexes. On est donc capable de mettre la main sur les briques élémentaires du vivant. Et ça peut être pour une très bonne cause. Par exemple, on utilise aujourd'hui la reprogrammation de génomes de bactéries pour aller soigner des tumeurs cancéreuses, plutôt que de faire de la chimiothérapie dont on sait les ravages. Pouvoir avoir des traitements ciblés, c'est très intéressant. En même temps, à chaque fois qu'on touche au vivant, on sait bien que les conséquences ne sont pas faciles à prédire, parce que le vivant, il mute, il évolue, et on peut tout à fait apporter quelque chose de très intéressant à un moment du développement du vivant, et puis on ne sait pas ce que cela devient dans le temps. Donc il y a évidemment une éthique des risques ici qui surgit. Dans quel monde on rentre quand on vient manipuler le vivant? Ça peut être pour le meilleur, ça peut être aussi pour le pire. Ce monde, en tout cas, nous y sommes. L'important, c'est que la réflexion éthique, la réflexion sur l'éthique des risques en particulier, et puis sur nos responsabilités lorsque nous manipulons du vivant, doit être à la mesure du développement de ces sciences et de ces technologies. Or, en ce moment, il y a un écart encore considérable entre le degré de scientificité d'une part et le degré de réflexion éthique de l'autre.
Thierry Magnien, vous posez dans votre livre cette question de l'iceberg bioéthique. Qu'entendez-vous par là ?
On connaît aujourd'hui beaucoup la bioéthique sous l'angle des grandes questions posées par la recherche sur l'embryon, sur les cellules souches et aussi tout ce qui tourne autour de la procréation médicalement assistée. Bien sûr, toutes ces questions sont des grandes questions de bioéthique connues, mais là, lorsque l'on en est à mettre la main sur les briques élémentaires du vivant, sur être capable de changer les bases biologiques du vivant, on pense à d'autres formes de vivant que la nature a pu produire. Quand on est capable non seulement de copier la nature, mais aussi de transformer les bases élémentaires du vivant qu'on trouve dans la nature, on se doute que le potentiel, la puissance qui est mise entre les mains de l'homme est énorme. Je crois qu'il y a une régulation internationale extrêmement importante. Il est là l'iceberg bioéthique, c'est-à-dire que ces questions-là ne sont pas encore apparues au grand public. Elles commencent à peine à être travaillées dans un certain nombre de cercles et d'associations au niveau restreint. Or, il y a des enjeux d'avenir énorme pour l'humanité tout entière.
Quelle est votre posture en tant que scientifique chrétien ?
C'est tout notre rapport au vivant et à la vie qui est mis en jeu dans cette éthique des biotechnologies. Et alors, ce qui est assez formidable aussi aujourd'hui, et c'est base aussi ma posture éthique, bien sûr c'est l'anthropologie chrétienne lorsque ces biotechnologies sont appliquées à l'humain, mais on montre aussi en science aujourd'hui, en biologie en particulier, l'effet du psychisme sur les mécanismes biologiques. Autrement dit, on voit bien, même sur le terrain scientifique, que toucher au biologique, ça a des répercussions sur le psychique, et nous pensons aussi sur le spirituel, et inversement. Pour moi, la posture, c'est comment l'utilisation de ces nanobiotechnologies qui peut être très bonne, mais comment elles sont mises à la disposition d'une meilleure et d'une plus grande harmonie entre le corporel, le psychique et le spirituel, ou bien au contraire, comment elles focalisent tout sur le biologique, réduisant profondément l'être humain. L'enjeu est là, notamment pour une métaphysique qui soit au service de l'homme et une éthique qui, du coup, soit aussi au service de l'homme.
Et place à présent au commentaire de l'évangile de ce dimanche. Le père Pascal Montavi nous propose son commentaire pour le quatrième dimanche de Carême. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Crois-tu au Fils de l'homme ? Je crois, Seigneur, la guérison de l'aveugle.
L'évangile de ce quatrième dimanche de Carême raconte la guérison d'un aveugle de naissance par Jésus. Il y a dans ce récit plusieurs dialogues qui nous permettent de mieux comprendre la portée de ce miracle. Écoutons-les attentivement. Tout d'abord, les disciples demandent à Jésus qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle. Jésus répond « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu ». La question des disciples a du sens. Rappelons que Jésus lui-même a dit à l'infirme à la piscine de Bethesda « Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive pire encore ». Certaines maladies sont donc dues au péché, mais pas toutes. Il est évident qu'un homme rempli de colère et de rancune risque fort de tomber malade. Ne dit-on pas d'ailleurs « Cela me rend malade ». Soyons prudents toutefois de ne pas établir de lien de cause à effet trop vite. Lorsque nous sommes malades, nous pouvons simplement nous demander si le Seigneur ne nous invite pas, par là, à un chemin de conversion. Vient ensuite une succession de dialogues où l'aveugle guéri est interrogé. Nous avons là un bel exemple de ce qu'est un témoignage. L'aveugle répète plusieurs fois « Il m'a appliqué de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et je vois. » Il ne cherche donc pas à convertir ses auditeurs, car Dieu seul convertit les cœurs. Mais il dit simplement et objectivement ce que Dieu a fait pour lui. Parfois, nous avons peur d'évangéliser parce que nous voulons trop en faire, ou alors nous avons peur de l'échec, d'essuyer un refus. Mais évangéliser consiste seulement à dire ce que le Seigneur fait dans ma vie. La portée et le fruit de ses paroles appartiennent à Dieu. Un autre enseignement important de ce récit est donné par le cheminement de l'aveugle né. Ce n'est pas lui qui va vers Jésus, mais l'inverse. Jésus fait de la boue et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Le seul acte méritoire de l'aveugle né est d'avoir obéi à cet ordre. Lorsqu'il raconte son histoire pour la première fois, il dit « L'homme qu'on appelle Jésus ». Puis plus tard, il dira « C'est un prophète ». Enfin, lorsqu'il rencontrera de nouveau Jésus, à la question « Crois-tu au Fils de l'homme ?», il répondra « Je crois, Seigneur ». Cette guérison accordée gratuitement par Jésus ouvre sur une véritable conversion et confession de Jésus comme Messie. À l'inverse, les pharisiens s'enferment toujours plus dans leur refus de croire, si bien que Jésus dira « C'est pour un discernement que je suis venu en ce monde ». Pour que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Cet évangile manifeste le désir de Dieu de nous recréer. Pour guérir l'aveugle né, Jésus fait de la boue avec sa salive et enduit les yeux de l'aveugle. Il y a là une évocation claire du récit de la Genèse. L'homme est créé par la glaise et par le souffle de Dieu. Ce que Jésus est venu faire parmi les hommes, c'est nous guérir de nos maladies et nous recréer pour que nous entrions dans la vie éternelle. Renaître à la vie implique un cheminement où nous découvrons qui est Jésus. Il est d'abord celui que les autres appellent Jésus, puis un prophète, et enfin le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Messie. En ce temps de carême, demandons au Seigneur de faire un pas supplémentaire dans notre confession de Jésus, Fils de Dieu, Sauveur des hommes, afin que nous aussi nous soyons guéris de nos cécités spirituelles.
Ainsi prend fin ce magazine. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va et sur Facebook à Radio Vatican en français. On se retrouve demain, où que vous soyez.